marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà in cammino ci illuminerà. Non
sapevo qual è... Il est midi sur Prune, l'heure de se réchauffer les mains autour d'un feu de joie. Siamotoutex part à la rencontre des milieux solidaires qui font vivre à leur manière la lutte contre le fascisme. Nous sommes tous antifascistes. Un cri inclusif de rage et d'espoir. Le cri d'une foule puissante de personnes qui agissent chaque jour pour créer des liens et des solidarités. Et c'est à elles que nous tendons notre micro toute l'année. Pour se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la lutte flamboiera tant qu'il le faudra.
Bienvenue dans Siamotoutex, l'émission tout exorciste qui part en chasse des démons fachos pour les éparpiller façon stéréo. Ici, on parle de trucs obscurs et effrayants comme la solidarité, la joie, les liens, l'humour, le partage et le respect de l'autre. Et si ça, c'est être subversive, alors la barre est même plus au sol, là, elle est enterrée plus profond que le premier T-Rex décédé.
Alors, je ne pensais pas commencer l'émission en parlant de dinosaures morts, mais soit, Lilia, let's go. On va tenter aujourd'hui de faire le lien avec la joie dans les luttes, ou les luttes dans la joie, attends, je sais plus. Bref, autour de cette table, pour accompagner votre brunch du samedi, on retrouve Enora, qui nous a préparé un super jeu, Héloïse, qui reprend sa casquette de reporter pour commener l'interview, avec Lilia, qui a bien bossé pour, et là je cite ces mots, susurrer de doux termes théoriques. Et moi, c'est Céleste, j'animerai l'émission. Et on a toujours Léo qui nous fait des coucous silencieux depuis la régie. Il fait vraiment coucou. C'est merveilleux. Et on pense à Louise qui fera probablement son comeback le mois prochain. On est ensemble pour une heure, c'est parti. Et Lilia, je te laisse à ton doux susurrage.
Ah mais attends, là ça me donne envie de me lancer dans la ASMR politique.
Ruissellement. 49.3.
Bon, ce sera pour une prochaine chronique. J'imagine que je ne vous apprends rien si je vous dis que les nouvelles du monde des dernières semaines nous ont tous laissés en PLS et que ces moments de retrouvailles derrière le micro vont finir par devenir une thérapie collective. On était loin de se douter d'à quel point les choses pouvaient empirer aussi fort et aussi vite quand on a eu l'idée de cette émission l'été dernier. En réponse au raz-de-marée fasciste des Européennes et au vol antidémocratique des législatives, on avait eu envie et besoin de créer une émission qui recense les initiatives locales, diverses et joyeuses, qui créent du lien et viennent nourrir la lutte antifasciste. Pour nous guider, on est allé chercher du côté des antifas originels en Italie et on a choisi le livre de l'écrivain Umberto Eco, « Comment reconnaître le fascisme ». Il liste 14 points permettant de reconnaître et qualifier un régime fasciste. Et chaque mois, en fonction du sujet et des invités, on pioche plusieurs points à mettre en lien avec leur lutte. Pour nous, c'est une manière de se rassurer en confirmant qu'il existe partout des lieux de résistance, des feux de joie jusqu'en bas de chez soi. Et pour vous, ben, on espère vous insuffler un peu de cette force pour ne pas finir en position fœtale à chaque nouvelle info.
Merci Lilia de nous avoir replongé dans le grand bain de l'antifascisme siamo et ne vous laissez pas amanouer par ces punchlines, tout ça est très sérieux. 14 points pour reconnaître le fascisme selon Umberto Eco, l'envie de puiser dans la joie et le collectif. Et une cinquième émission pour décortiquer... Attendez, décortique quoi du coup, juste ce midi? Le suspense est insoutenable, c'est Lilia. C'est quoi le thème de l'émission?
Alors, on va parler des lunettes rouges et de la déontologie de Pascal Praud.
Fun.
De la neutralité de Christine Kelly et de la rigueur de TPMP.
Ah oui.
Les invités sont ravis.
ça vous plaît pas comme angle? Bon, bah,
okay. L'émission va se finir très vite alors.
Très bien, on va parler de l'apprentissage de la critique des belles personnes susnommées et donc on va parler d'éducation aux médias. Selon la définition d'Eduscol, l'éducation aux médias, c'est l'apprentissage qui permettra aux élèves de devenir des citoyens responsables dans une société marquée par la multiplication et l'accélération des flux d'informations. Ils développent leur esprit critique et sont capables d'agir de manière éclairée pour chercher, recevoir, produire et diffuser des informations via des médias de plus en plus diversifiés. Bon, dit comme ça, ça semble effectivement nécessaire pour que la jeune génération sache comment s'informer et démasquer les fake news. Mais selon le petit manuel critique de l'éducation aux médias, écrit par des professionnels, l'éducation aux médias peut aussi avoir tendance à être vidée de ses principes premiers. Et il se pose la question en intro... Est-ce que l'éducation aux médias, telle que voulue par les institutions, est enseignée comme pratique émancipatrice ? Ou vise-t-on à raccrocher les citoyennes et citoyens à une lecture dite républicaine des médias traditionnels ? Ce qu'on a appris récemment, c'est qu'en plus de cette normalisation, l'éducation aux médias est quasiment rayée des programmes scolaires suite aux coupes budgétaires de notre super gouvernement. Alors, quel rapport avec le fascisme ? On a choisi trois points. Le premier, c'est qu'un système fasciste se construit autour d'un discours basé sur des mensonges et des manipulations pour servir et justifier son existence. La philosophe Hannah Arendt disait en 1974 « À partir du moment où nous n'avons plus de presse libre, tout peut arriver. Ce qui permet à une dictature totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c'est que les gens ne sont pas informés. Si tout le monde vous ment en permanence, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit plus rien. Le peuple est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez alors faire ce que vous voulez. » Et aujourd'hui, notamment en France, les médias indépendants ne suffisent plus à contrecarrer les chaînes d'extrême droite accessibles en un bouton de télécommande, en clair et en continu. Les garde-fous que sont les chaînes de service public ne sont plus assez intègres et l'ARCOM pas du tout fonctionnel pour apporter une autre vision de l'actualité et sanctionner les fake news et les incitations à la haine. Si bien qu'en ayant une majorité d'informations faisant le lit de l'extrême droite, les gens qui ne veulent pas s'intéresser à ces sujets ne vont pas questionner la lecture des faits. Bon, c'est hyper... je plombe carrément dans le... Waouh. Non, mais on va... L'émission est à propos d'optimisme.
On va en trouver.
Le deuxième point d'Umberto Eco que l'on n'a pas encore évoqué, c'est que le fascisme parle une nouvelle langue, une langue délibérément pauvre, afin de limiter les instruments de raisonnement complexes et critiques. La nouvelle langue, c'est un concept qui a été imaginé par l'écrivain George Orwell dans son livre 1984. D'ailleurs, Eco alerte sur la possibilité de nouvelles novlangues qui peuvent prendre des formes aussi innocentes qu'un talk show. Si on prend l'exemple de TPMP, les pseudo-débats sont toujours introduits avec des phrases de choc et on arrive tout de suite à un pour ou contre. La pensée est complètement simplifiée, voire annihilée, et la nuance devient aussi inexistante que la dignité d'Hanouna. Voilà donc les ingrédients d'un super discours fasciste, des mensonges en masse pour brouiller la frontière avec la vérité et une langue pauvre qui ne permet pas la réflexion. Ajoutez à cela la concentration des médias dans les mains d'une poignée de personnes riches et puissantes et vous avez un cocktail parfait pour la gangrène fascisante.
C'est vrai que c'est beaucoup moins déprimant maintenant.
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais on est ici pour parler des ripostes qui existent. Ça y est, ça arrive. Alors voici une réponse antifasciste avec un troisième point d'Umberto Eco que l'on a déjà évoqué, la critique analytique. Selon notre vieux Gandalf Antifa, un système fasciste ne supporte pas la critique et tout désaccord est considéré comme une trahison. Et justement, ce que propose l'éducation aux médias, c'est une approche critique des contenus que nous consommons et produisons.
Alors vous l'aurez compris, chers auditeurs, on va parler éducation aux médias comme outil très concret et quotidien de la lutte contre les idées d'extrême droite. Concret et quotidien, parce qu'on passe nos journées à s'informer, à recevoir des notifications, à lire des réactions, regarder des vidéos 30 secondes pour nous faire un récap de l'actu du jour. Et pour décortiquer ce vaste sujet, on a deux invités avec nous sur le plateau. Salut Anne-Marie.
Salut.
Salut Julia.
Hello.
Alors vous êtes toutes les deux journalistes pigistes. Vous avez écrit des articles pour Marie-Claire, Mediapart, Les Inrocs ou encore Le 1. Julia, tu fais partie de Acrimed.
Oui,
une association de critiques des médias qui publie une revue de référence, nous a-t-on dit, sur le sujet. Oui. Alors, les auditeuristes vous reconnaîtront peut-être. Vous avez animé pendant 2 ans l'émission Retour aux sources, émission de critique des médias qui décortiquait la façon dont est faite l'information. Et depuis quelques mois, vous animez des ateliers d'éducation aux médias dans des établissements scolaires ou des universités. On aura le temps d'en parler pendant l'interview. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci. Un plaisir.
Ok donc, rappel du concept de l'interview, c'est bon. Point théorique Umberto Eco, fun, c'est bon. Présentation et remerciements des invités, c'est bon. Ok, c'est tout bon. Héloïse et Lilia, c'est à vous.
On part donc dans un truc très méta ce mois-ci, où on se retrouve à interviewer des journalistes. Alors attention, on est ici pour avoir des moments de radio, alors merci Anne-Marie et Julia de nous dire exactement ce qu'on a envie d'entendre. On veut de la punchline pour faire le buzz, on veut des vues et des likes sur nos réseaux, de la polémique, un cap clair, que dis-je, une péninsule. Non bon, on va arrêter les gros clichés de boomer sur le journalisme et la formation Léa Salamé.
On était prêts à tout donner. Hein.
Tout a commencé le 7 octobre, c'est bon là.
Pitié. Mais ça n'empêche que, au-delà de l'éducation des médias, ça pose la question de l'éducation des médias.
Oh là là, Lilia, t'es en pleine forme ce midi. Avant, on pourrait peut-être poser quelques principes de base, non ?
Moi, quand on me dit éducation aux médias, je visualise pas très bien ce que c'est. J'imagine un cours un peu poussiéreux, mais je pense que c'est très, très, très loin de la vérité. Donc, est-ce que l'une de vous pourrait nous résumer, nous décrire en quelques mots une séance ? C'est pour qui ? Qui la demande ? Qui l'anime ?
L'éducation aux médias, ça prend plein de formes différentes. Ça peut avoir lieu effectivement dans une salle de classe, mais ça peut aussi avoir lieu dans des EHPAD, dans des prisons, dans des MJC. Voilà.
Partout.
Ouais, et puis c'est aussi animé par plein de gens très différents. Ça peut être des animatrices, des éducatrices, des journalistes, des profs, etc. Et l'idée aussi un peu inhérente à l'éducation aux médias, c'est d'avoir aussi une pédagogie basée sur les outils de l'éduc-pop.
Ok, par exemple.
Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas se positionner dans cette posture de sachant, mais plutôt d'effacer cette hiérarchie et de mettre un peu les personnes en mouvement, tant dans la réflexion, dans l'échange, le dialogue, qu'en mouvement même physique.
Okay.
Et une des toutes premières techniques qu'on apprend, c'est les débats mouvants en éducation aux médias. Voilà.
Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce qu'est un débat mouvant ?
Alors, en fait, l'idée, c'est de prononcer une affirmation. Et donc, ça veut dire qu'ensuite, on désigne un endroit dans la pièce qui serait la localisation où l'on est d'accord vis-à-vis de cette phrase. Et un deuxième espace où l'on se placerait si on est en désaccord avec cette phrase pour ensuite donc, mettre les personnes en mouvement, donc se situer et ensuite créer un dialogue entre les deux groupes.
Ouais. Et la définition de l'éducation aux médias, on la fait souvent, en fait, dans chaque atelier qu'on mène, histoire d'avoir une définition commune avec les gens auprès de qui on intervient, quoi. Et donc souvent, ce qui ressort, les mots, c'est émancipation, esprit critique, pédagogie active, etc. Et moi aussi, j'ai ramené des petites définitions, deux définitions à comparer. Pour voir un petit peu l'évocation, comment le sens de l'éducation aux médias peut changer et les biais, les travers un peu vers lesquels ça peut se terminer. Et c'est issu aussi du bouquin Éducation critique aux médias. Donc la première définition, c'est une définition de Jacques Piété, un sociologue qui date de 1996. Et qui dit que l'éducation aux médias participerait à déconstruire les médias servant l'aliénation culturelle des masses et à l'appauvrissement des points de vue divergents dans la société. Ça, c'est la définition de 1996. Et le bouquin « L'éducation critique aux médias », là, il propose de le comparer avec le discours d'Édouard Philippe en 2018, dans son discours de présentation du plan national de prévention contre la radicalisation. Donc, l'éducation aux médias permettrait aux élèves de se prémunir en particulier contre les théories complotistes. Donc, on voit en fait comment on peut, en resserrant comme ça la définition, ça perd tout son intérêt, quoi.
Du coup, ce que tu veux dire aussi, c'est que l'éducation aux médias, c'est pas forcément neutre.
Oui, exactement. Oui, c'est pas du tout neutre. Comme le journalisme, c'est très politisé. Et ça, comme ça porte, comme Anne-Marie l'a dit, les valeurs de l'éducation populaire, il y a des notions d'émancipation des peuples, souvent de lutte des classes. On parle beaucoup, quand même régulièrement du patronat dans les médias, etc. Donc, ouais, non, c'est pas du tout neutre.
Et du coup, est-ce que, là, tu nous présentes une éducation aux médias qui est quand même très marquée à gauche. Est-ce que, à l'inverse de l'éducation aux médias de droite, ça existe ?
Ah. Alors, de l'éducation aux médias de droite, je ne sais pas, mais de l'éducation aux médias institutionnels, en tout cas, ouais, ça existe. Comme c'est un plan qui a été repris, je crois, à partir de 2013, qu'il fallait donner ça aux élèves, du coup, ça donne plein... Enfin, il peut y avoir plein de risques, en fait, puisque c'est repris par l'État. Comme tu as dit, tu as parlé de normaliser l'éducation aux médias. En fait, ça peut changer... En fait, elle peut, enfin pas être de droite, mais en tout cas, elle perd toute son essence quand il s'agit de donner les bons comportements médiatiques, des mauvais comportements médiatiques.
Et l'éducation aux médias, ça prend plein de formes, donc ça peut être aussi du décryptage, de l'analyse de l'information, mais ça peut aussi être seulement de la pratique, comme créer par exemple un club radio. Et donc, à mon sens, si tu ne fais que ça, bah, ça peut être un moyen aussi de dépolitiser l'éducation aux médias et potentiellement de faire de l'éducation aux médias de droite.
Ouais. Mmh. Oui.
Et est-ce que dans les séances, notamment auprès des publics scolaires, est-ce que les enfants, les élèves peuvent... ça peut être aussi des moments d'expression sur d'autres sujets que les médias. J'imagine de sujets dont ils n'osent pas ou ils ne veulent pas parler à leurs parents, par exemple.
Oui, je pense que ça peut permettre ça parce que justement, c'est des... c'est pas des temps officiels de classe, c'est des moments où on leur laisse quand même du temps de parole, ce qui est plutôt assez rare ailleurs. Et donc, je pense que ça peut faire émerger des sujets, notamment, évidemment, maintenant, l'éducation aux médias englobe aussi les médias sociaux, donc les réseaux sociaux, et je pense que ça peut aussi amener à parler de leurs pratiques, des groupes sur lesquels ils sont, de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'ils voient, de vidéos choquantes qu'ils peuvent voir, etc.
Ouais, et comme quand on fait, comme tu as dit, de la création de médias, bah, c'est eux qui choisissent les sujets dont ils veulent parler. Et donc, bah, on peut aussi parler d'islamophobie, par exemple, sur un atelier de création de médias qui concernerait la lutte contre les discriminations. Voilà, on peut parler d'homophobie, d'islamophobie, etc. Ouais.
Okay.
Donc oui, ça peut être beaucoup plus large. Ouais.
Et c'est déjà l'heure de la pause. J'ai l'impression d'être aux 12 coups de midi sur TF1, que quelqu'un me retire ce micro. On écoute tout de suite Juste Ami de Théa. That's weird, isn't it? I mean, anything that could have happened, do you know what I mean? And it'd just be normal, man. I'd just be like, just be friends. No, don't say that.
Paris parle de moi, mais je veux m'endormir dans ses bras. Dans les caissons basses, j'ai lu dans ton regard. Si tu prends ma main right now, je te promets que... On ira danser dans les trucs nivoles, vider du plastique qui like dans les toilettes du bar. Mes promis c'est amical, mes promis c'est amical. On ira s'aimer sous les barricades, cramer toute la capitale. Tenir la main sur les toits, mes promis c'est amical. Mes promis c'est amical. Je crois que j'aime pas le goût de la vie. J'ai trahi de ta cœur toute la nuit. Si ta vie m'arrête, tu t'es pas enfui. Tu me croques les fesses quand je m'habille. Je veux pas finir d'être dans ma bille. Je veux pas finir toute seule d'être dans ma bille. Parce qu'il faut faire ici. Regarde ou dans la glace où mon amour fait moi la place. J'étais la dernière de la classe. J'ai le cœur fêlé comme ice, phalange serrée comme d'hab. Prouve-toi, j'irai tout défoncer. Les mecs relous, les députés. J'irai sauter sans rappel. Juste j'en ferai que la vie est belle. Je crois pas en moi, mais je croyais en rien avant quand je t'aime. Si tu veux, on reste amis. Si tu veux, c'est ça qu'on dit. Mais j'ai fait le tour de Paris. Ouais, j'ai fait le tour de Paris. Je vois que toi, dans les humbles soirs. Tu sais, tout Paris parle de moi. Mais je veux m'endormir dans tes bras. On ira danser dans les technival, vider du plastique qui like dans les toilettes du bar. Mes promis c'est amical.
Boy, I'm hungry.
Mes promis c'est amical. On ira s'aimer sur les barricades, cramer toute la capitale, se tenir la main sur les toits. Mes promis c'est amical. Mes promis c'est amical.
Vous êtes de retour sur Prune. Aujourd'hui, dans Siam au tout-texte, on aborde la question de l'éducation aux médias dans un paysage médiatique qui tire fort fort à droite. Et j'ai vraiment l'impression que ma consommation des médias n'est pas du tout, mais alors pas du tout, à la hauteur des enjeux. Depuis le 7 octobre 2023 et le traitement inhumain et scandaleux du génocide à Gaza par la plupart des médias, j'ai quasiment désactivé toutes les applis d'information sur mon téléphone. J'ai pas la télé et vraiment, écouter De Morand et Salamé dès 8h du matin, ça me donne des poussées d'angoisse. Du coup, ma seule source d'information, c'est Insta et les notifications Mediapart. Et j'assume pas du tout de dire ça au micro, mais ma façon de m'informer ne me convient pas et je sais pas comment la changer. Toi, Enora, comment tu t'informes ?
Un peu comme toi, j'ai un peu abdiqué, je pense. Jusqu'au point où j'ai même supprimé Insta depuis quelques semaines. Là, je fais une pause et je vais plutôt dans des sujets un peu plus... là, comme par exemple pour l'émission, je me suis penchée sur des analyses un peu plus profondes et pas sur des événements de l'actu chaude, quoi.
Toi, Héloïse, t'as quelle pratique de l'information ?
Alors moi, je suis encore adepte un peu des journaux télé. J'allume à 20h05 parce que faut le temps de penser à allumer. Mais j'aime bien encore et je regarde un peu la presse locale en ligne, histoire de me tenir informée du plus local. Et puis sinon, ça passe aussi beaucoup par Insta, mais je lis rarement au-delà des slides titres. Donc on pourrait très bien m'avoir très facilement. Mais je le sais.
Et toi, Lila, tu peux partager avec nous comment tu t'informes ?
Pareil, au début, j'utilisais Facebook comme revenu journalistique où je m'étais abonnée à tous les journaux que je voulais suivre. Et maintenant que je suis moins boumeuse, je vais aussi sur Insta. Et là, je suis aussi des journalistes et des activistes. Et après, le seul média papier que j'ai, c'est La Déferlante.
Très chouette média.
Et on entend beaucoup, les ados sont manipulés par TikTok ou Yael ne s'informe pas via les réseaux sociaux. Bon, les gens ne disent pas Yael, juste sûrement quand ils disent ça. D'une part, on vient de voir que c'est pas les seuls. On est aussi assez mal lotis. Mm-hmm. Mais on est aussi allé leur demander aux ados où et comment Yael s'informait.
Trop bien.
Du coup, moi, je m'appelle Lina. J'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans. Je suis en service civique dans l'association Ville Simplement. À côté de ça, je garde une petite enfant tous les matins et je travaille le week-end en boulangerie. À côté de ça, je lis beaucoup, je cuisine et je vois beaucoup ma famille.
Je m'appelle Nour, j'ai 17 ans, j'ai bientôt 18 ans. Actuellement, je suis en service civique à Ville Simplement. À côté, alors j'adore cuisiner, c'est ma passion. J'adore faire le ménage aussi, j'adore. mais autrement, j'adore voir ma famille, profiter avec ma mère, voir mes grands-parents aussi, une passion.
Donc c'est votre premier enregistrement studio.
Oui.
Est-ce que vous écoutez de la radio ? De la radio, des podcasts, des streams ? Est-ce que le format écouter dans ses oreilles sans voir forcément ce qui se passe ?
Oui, oui.
Vous écoutez quoi ?
La radio.
Moi, j'écoute Skyrock.
Oui, moi aussi, c'est Skyrock.
Ou alors des podcasts sur Spotify.
Moi non.
T'écoutes quoi comme podcast ?
Moi j'écoute des podcasts sur la religion, pour m'endormir le soir.
Est-ce que vous vous informez ? Est-ce qu'il y a des moyens de vous tenir au courant de ce qui se passe à Nantes, en France ou dans le monde ?
Alors à Nantes, non. Mais dans le monde, oui, il y a TikTok. C'est TikTok qui m'informe.
Ouais, en vrai, on voit beaucoup de trucs sur TikTok, mais moi je sais que je suis abonnée à des trucs sur Insta.
Genre quoi ?
Je suis abonnée à la France Insoumise.
Ok.
Et après, je suis abonnée à... Je sais plus comment... c'est Rima...
Rima Hassan ?
Ouais, voilà. Ouais. Rima Hassan. Et je suis abonnée à elle aussi.
Ok.
Du coup, je vois avec ça.
Mais du coup, vous regardez les JT ?
Je regarde le journal de 20h comme une vieille.
Non, moi, je regarde sur mon téléphone.
Et dans les infos que vous voyez passer sur TikTok, les réseaux, tout ça, est-ce que vous arrivez à faire le tri entre... Vous voyez un truc et vous dites... Alors ça, vraiment, fake j'y news. Crois pas. Ou les trucs un peu sourcés, vous dites... Ok, ça, ça a l'air balèze, ça a l'air vrai, ça a l'air... Est-ce que vous arrivez à... Est-ce que ça vous importe de faire la distinction ? Est-ce que vous arrivez à la faire ?
Moi, oui, j'arrive à la faire. Parce qu'en fait, je regarde les commentaires.
Ouais,
les commentaires, soit ils disent « Ah bon, mais j'ai pas vu ça », donc je me dis « C'est une fake news ». Ou alors autrement, s'il y a des trucs qu'ils en parlent vraiment, c'est que... Ou alors autrement, je vais dans les recherches TikTok et je mets le truc de quoi ça parle. Et comme ça, en fait, je vois bien et je vois qu'il y a plein de posts. Du coup, maintenant, je sais que c'est vrai.
En fait, quand il y a plein de posts qu'on parle, je peux plus te dire que c'est vrai. Sinon, c'est juste une personne qui a fait une vidéo.
Et vous avez un exemple de fake news, enfin de fake news, d'un truc faux que vous avez vu passer sur les réseaux et...
Après, c'est des trucs par rapport aux influenceurs, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ça veut dire quoi?
Bah, en fait, maintenant, la plupart des gens, enfin des jeunes, ils suivent des influenceurs sur Snap. Okay. Bah, comme,
ah oui, c'était
comme Nasdas.
Nasdas.
Simple. Et Nasdas, il dit plein de trucs faux et tout. Sauf que comme il a grave une visibilité, bah, les jeunes, ils y croient.
Et vous, vous y croyez pas?
Non. Bah, je pense que non.
Et pourquoi vous, vous y croyez pas?
Bah, parce qu'on arrive quand même à faire la distinction.
La différence,
ouais, ouais. C'est ça.
Je sais pas, il y a des trucs, ça se voit que c'est faux. Mais aussi, parfois, il y a des trucs faux sur ce qui se passe. Genre, ouais, quand il y a des trucs, par exemple, en Palestine et tout, bah, il va grave déformer le truc.
Ok.
Genre, et en fait, c'est pas que je pense qu'il veut le déformer, c'est qu'il le dit à sa sauce. Et comme les ados, ils vont pas trop se renseigner d'eux-mêmes.
Bah, ils vont aussi leur prendre à leur sauce, quoi.
Ouais, voilà, ils prennent que ce que les influenceurs ils disent. C'est pour ça qu'il y a plein de gens aussi, parfois, ils savent pas trop ce qu'ils racontent. Enfin, genre, c'est déformé parce qu'ils prennent que ce qu'ils voient sur les réseaux. Maintenant, c'est que comme ça.
Sur tous les sujets, tu veux dire?
Oui. Par exemple, tous les trucs de politique et tout, bah, en vrai, je pense qu'il n'y a aucun jeune qui regarde les programmes politiques, sauf ceux qui s'y intéressent vraiment. Juste, ils voient sur TikTok, en fait. Genre, ouais, il faut voter la France Insoumise puisque c'est passé dans l'heure pour toi. Et après, ils vont se dire, ouais, bah, vas-y, on va voter ça. Mais en vrai, ils ne savent pas pourquoi ils votent ça.
Est-ce que vous voulez rajouter des choses?
Bah, moi, non.
Bon, je pense que c'est bon.
Ouais.
Ok, trop cool. Merci beaucoup.
De rien.
Vous en avez pensé quoi de cette émission, cette expérience radio?
Ah, c'était bien.
Ouais, en fait, t'as l'impression que le micro il est plus là.
Bah ouais, c'est ça. En fait, tu te sens un peu plus à l'aise.
Vous êtes moins stressée?
Oui. Ouais.
Là, je pourrais chanter. Genre, là.
Et en fait, depuis le début, nous sommes en direct.
Ah, super. Super. Oh, bah, tout le monde
c'est vrai?
Non.
Ah, j'ai eu peur.
Toi, fake news. En fait, toi, tu crois aux fake news. Moi, j'ai une question.
Ouais.
Les profs et les adultes ils disent qu'ils veulent empêcher les fake news et tout, mais ils veulent faire comment?
Et bah, ça nous fait une super transition pour continuer notre interview avec Anne-Marie et Julia. Vous qui, justement, vous préparez et animez des ateliers d'éducation aux médias, qu'est-ce que vous voudriez répondre à Nour et Lina au sujet de la lutte contre les fake news?
Vas-y.
En fait, j'ai l'impression que depuis l'élection de Trump en 2016, c'est un peu la pierre angulaire de l'éducation aux médias en France, la fake news. C'est un mot qui est utilisé parfois un peu à tort et à travers, qui recouvre aussi plein de choses. Ça peut aller de la rumeur à la propagande, à une simple erreur journalistique. Je pense que ce qui est important, c'est d'éduquer les personnes à essayer de comprendre l'intention. C'est savoir si c'est intentionnel ou non. Essayer de comprendre si c'est humoristique, par exemple. C'est arrivé d'avoir des images du pape portant une énorme doudoune, par exemple. Je ne sais pas si ça date un peu, mais je pense à ça. Bon, ça paraît dérisoire par rapport à d'autres choses. À l'inverse, je pense qu'il y a aussi des fausses nouvelles, on dit intox, fake news, qui sont propagées, qui ont des répercussions beaucoup plus graves, comme par exemple pendant c'était la campagne de Trump en septembre dernier, où il a lancé que les immigrés haïtiens mangeaient des chats et des chiens, par exemple. Et je pense que ça peut avoir des répercussions sur les votes, parce qu'en réalité, aux États-Unis, il y a plus de 60% des ménages qui ont des animaux de compagnie. Et donc, c'est venu toucher à quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, en fait. Et donc, les votes racistes, ça y allait, quoi. Donc, je pense que c'est plus de l'éducation sur les intentions à faire à cet endroit-là.
Oui, et déjà, les fake news, il y en a depuis super longtemps, en fait, depuis qu'il y a de l'info. Et en fait, je pense, dans l'inconscient, maintenant, on relie ça aux réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, par exemple, une des énormes dernières fake news, elle s'est faite à la télé par PPDA quand il a monté une fausse interview de Fidel Castro, par exemple. Bah là, ça a été fait par un journaliste dominant, dans un média dominant, etc. Et c'est... Enfin, voilà, ça peut apparaître n'importe où. Il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai l'impression que les fake news, on fait des ateliers sur les fake news dans les quartiers populaires. Parce qu'on a l'impression que c'est elles et eux, c'est les habitants et les habitantes qu'il faut éduquer. Comme si eux, en fait, ils avaient une mauvaise pratique ou ils avaient des petites faiblesses, quoi. Sauf qu'en fait, évidemment, non, ça peut toucher tout le monde. Effectivement, un des moyens dans la capsule, déjà bravo pour la capsule, c'était très chouette. Dans la capsule, il y a une jeune qui dit ça se voit que c'est faux, et c'est vrai et c'est faux à la fois. Mais c'est-à-dire que souvent, une fake news, c'est quand ça touche trop à l'émotionnel, bah, on sait que il y a vraiment, ça augmente les chances que ça soit faux en fait, comme le truc c'est de manger des chats et des chiens là. Mm. Et enfin, je pense qu'aussi les fake news, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de plein d'autres trucs qu'on devrait aborder dans l'éducation aux médias, en commençant par la fabrication de l'information. Comment est-ce qu'on fabrique tout ça? Qui nous parle de lignes éditoriales, etc., de propriétaires de médias, voilà. Donc les fake news, c'est bien, mais en fait, il faut passer un peu au-dessus maintenant. Faut revenir à la racine de la fabrication de l'info, quoi.
Ok. Et du coup, donc tu le disais, on va avoir l'impression que, enfin, les institutions vont avoir l'impression que c'est les habitants des quartiers populaires ou les jeunes en général qui savent pas s'informer correctement. En attendant, les boucles WhatsApp et les murs Facebook remplis de fake news, c'est plutôt sur les téléphones de nos darons. Mmh. Est-ce qu'il y a de l'éducation aux médias qui est prévue auprès des 50-70 ans ou pas?
Ça existe.
Ça doit exister. Moi, j'aimerais trop, j'aimerais tellement en faire. t'en as déjà vu, toi, Anne-Marie?
Ben, je sais que ça existe dans des EHPAD. Dans
des EHPAD.
Dans ouais. Des EHPAD, pardon. Donc, ça doit bien exister ailleurs. Dans des assos, même dans des universités permanentes. Enfin, je pense à ça parce que l'université permanente à Nantes, il y a énormément de retraités qui y vont. Donc, je pense que oui, ça doit aussi toucher ces publics-là.
Mais c'est clair, tu as raison, parce que par exemple, des trucs de base de l'IA, une image de base réalisée par une IA qui est un peu mal faite, mais voilà. Ben, typiquement, une jeune, elle va être capable de le voir, ou en tout cas de mettre en doute ce truc, tandis que nos darons, nos tontons.
C'est une autoroute, ils y vont, peut-être ouais. Quoi.
Et on n'a plus qu'à militer pour une éducation aux médias par tous et pour tous.
Intergénérationnelle.
Et, ouais. Ouais, quels que soient les âges, les classes sociales.
Mais go
et, mais allez, un combat de plus dans ma besace d'aventurière rockiste. Hop, un XP et 5 rubis. Je joue beaucoup trop à Zelda en ce moment. Dans ma besace, il y a aussi un petit bouquin d'Umberto Eco qui nous dit que l'un des moves du fascisme au XXe siècle, ça a été la mobilisation d'une classe moyenne frustrée souffrant de la crise économique ou d'un sentiment d'humiliation politique et effrayée par la pression qu'exerçaient des groupes sociaux inférieurs. Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, je vois direct les débats, revoilà les « air guillemets » de Siamo Dutex, on en a à chaque émission, créés sur les chaînes de télé en continu, puis dans les journaux qui emboîtent le pas, puis sur les réseaux, etc., etc., etc. On le voit, les médias deviennent peu à peu l'outil de cette instrumentalisation de la frustration individuelle dont parlait Eco. Et mon petit toit me dit que ça a un rapport avec les personnes qui les possèdent, ces médias. Julia, je sais que dans tes ateliers, tu abordes la question justement de qui fabrique l'info, t'en parlais un peu. Qui en choisit les angles et les conséquences que ça peut avoir? Qu'est-ce que c'est les principaux enseignements qu'il faut retenir de tout ça?
c'est aussi beaucoup en rapport avec le travail d'Acrimed dont tu parlais un peu plus tôt, donc Action Critique Média, qui est une association et qui est aussi un média qui a été créé en 96 qui, pour moi, résonne vachement avec l'éducation aux médias. Donc c'est mettre en valeur, révéler en fait tous les biais économiques, politiques, de copinage, etc., qui peut y avoir. Et je viens d'oublier ta question, c'était quoi? Ah oui, les propriétaires de médias. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ben, je pense qu'il faut qu'on sache qui nous parle, en fait, et d'où on nous parle. En France, on est très attaché à une idée de pluralisme qui est un peu faux, parce qu'il y a plein de cas où Le Figaro, Marianne, parfois même l'Humanité vont nous dire des choses assez similaires, en fait, puisqu'il y a un effet il y a un concept, la bourdeusien, dont j'ai oublié le nom, mais qui fait qu'en fait les médias se répètent parce qu'ils ont tellement peur. Enfin, il y a un média qui lâche un truc et toutes ils vont être nous aussi, il faut qu'on répète le truc. Donc la pluralité, c'est une illusion. Par contre, c'est capital de savoir qui y a derrière ce média et donc quelle est la fameuse ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, c'est l'ensemble des choix que fait un journal assumé pour nous parler de l'information. Typiquement, là, ce qui me vient, c'est Street Press qui va beaucoup travailler sur l'extrême droite. Une autre ligne éditoriale à me proposer, peut-être.
Le Point.
Le Point, qui va être de droite, avec beaucoup d'éditorialisation, donc c'est-à-dire beaucoup donner son avis. Enfin voilà, ça c'est un truc capital. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça ?
Que en France, les principaux médias sont, je crois, possédés par 10 mecs fortunés, ouais,
à peu près 80% des médias sont en ce moment possédés par entre 11 et 13 milliardaires qui tournent. Mais il y en a plein d'autres dont on n'entend pas parler. Hein. La famille Hutin qui possède Ouest France, ben elle n'est pas milliardaire, mais pourtant, ça reste quand même une grande famille médiatique. Et y a, là, récemment, on a beaucoup entendu parler de Vincent Bolloré, qui est un industriel breton. Et lui, il a ce qu'on pourrait dire être un combat civilisationnel. Et je me suis vachement interrogée sur cette phrase-là. Je me suis dit, mais est-ce qu'il l'a dit ? Est-ce qu'il ne l'a pas dit, cette phrase ? Parce que, et en fait, ça serait... ce qui est marrant, c'est que c'est le directeur de la rédaction de Challenge qui a fait la biographie de Vincent Bolloré, dans laquelle Vincent Bolloré dit « Je me sers de mes médias pour mener mon combat civilisationnel ». Voilà, donc en fait, il l'a vraiment dit. Et Vincent Bolloré, il est catholique extrémiste. Et il a des valeurs fondamentalement racistes, voilà, excluant, voilà, pleines de stéréotypes. Et donc, en fait, une fois qu'on sait ça, on est déjà mieux armé pour appréhender l'information qui découle de ces médias, quoi, tout simplement.
Il ne faut pas se leurrer. Bolloré, il a racheté énormément de médias, pas pour des raisons économiques, contrairement à ce qu'il a dit à la commission du Sénat. Mais bien parce que c'est un outil d'influence. En vrai, la presse en France, ça ne rapporte plus rien. Enfin, clairement, c'est pas là où il peut espérer prospérer, quoi. Donc oui, évidemment, on sait que derrière, il y a un vrai projet de diffusion d'idées d'extrême droite. Et je pense aussi dans le but de mener le RN au pouvoir en France.
On va partir sur complètement autre chose.
Pardon, j'ai plombé.
Ah non,
Bolloré a plombé l'ambiance.
Donc dans l'équipe, on a vu qu'on avait aussi une approche complètement biaisée de l'information, où tout semble correspondre à notre point de vue. Mais du coup, c'est tout aussi vrai dans l'autre sens, notamment avec l'arrivée en masse de l'extrême droite sur ces réseaux. Et surtout que l'extrême droite a été maligne et s'est insérée sur les contenus lifestyle et culturels. Genre tu regardes une vidéo de muscu, puis tu tombes sur Thibaut InShape et hop, abonnement à Papacito pour savoir comment être un vrai bonhomme bien viril, bien français. Est-ce que vous apprenez à casser ces bulles d'information dans vos ateliers et comment on fait ?
Tu parles des bulles de filtre, les nôtres de gauche ou celles d'extrême droite ?
Les deux, du coup. Enfin, autant nous qui n'arrivons pas à sortir de ces bulles d'information parce que ça nous fait aussi du bien de lire des choses où on sait que les gens sont safe, que les gens d'extrême droite, ou même qui n'étaient pas d'extrême droite à la base et qui se retrouvent là-dedans parce qu'ils ont regardé une vidéo, un influenceur qui les emmène là-dedans, quoi.
Alors moi, j'aurais tendance à dire que malheureusement, ma bulle de filtre, elle n'est pas assez imperméable. Tu vois, genre tous ces saluts nazis qui passent en ce moment en vidéo, ils sont arrivés jusqu'à moi à de multiples reprises.
Mais est-ce qu'ils ne sont pas arrivés par des médias de gauche qui les relaient sur ton fil ?
Si, potentiellement, mais je pense que c'est aussi la force des algorithmes aussi des médias sociaux aujourd'hui qui poussent en fait énormément les contenus d'extrême droite et les favorisent parce que c'est... Parce qu'en fait, ça fait réagir et donc ça fait du profit.
Oui, ça génère plus. On reste plus de temps parce qu'encore une fois, ça fait appel à l'émotion, etc. Oui. Les bulles de filtre, ça existe. Après, je pense qu'on. Enfin, encore une fois, je trouve que les jeunes sont assez bien informés là-dessus. Par contre, les personnes qui ne le sont pas trop, c'est encore une fois les quadras, quinquas, sexagénaires ou plus, quoi. Et où là, il faut un petit peu plus. Là, il faudrait expliciter à ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez acquis. Ça fait quand même 5, 6, 7 ans qu'on en parle. Enfin, pas moi d'ailleurs, mais que des gens en parlent dans l'éducation aux médias. Et que c'est un peu comme les fake news. Il faudrait passer à un peu l'étape... au backstage de ça, c'est comment sont... En fait, comment le design des applis numériques...
quelles répercussions ça a sur nous, en fait. Voilà, c'est parler de qui fait ça, en fait. Pourquoi est-ce que dans la Silicon Valley, il y a des gars que ça fait 15 ans qui bossent sur des designs persuasifs, etc. Voilà, c'est aller du côté un peu, bah, toujours parler de la fabrication, en fait, de tout ça, quoi.
Et pour rester sur la thématique réseaux sociaux, dans leur témoignage, Nourelina, elle parlait aussi du rôle des influenceurs et des influenceuses sur les médias qu'elle consomme. Sans aller forcément regarder Thibaut InShape comme Lilia, apparemment.
Alors non, pas du tout.
On sent qu'on a glissé vers vachement d'incarnation dans les médias, même les médias traditionnels. Est-ce que ça représente, pour vous, ça représente un risque ou finalement c'est un avantage que ce soit vachement plus incarné?
Je t'avoue en toute honnêteté que je me suis pas trop questionnée encore sur cette chose, okay, de me demander si c'est positif ou pas. Je pense que ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure, le fait que les médias financièrement c'est compliqué, et donc soit tu as des journalistes indépendants qui décident de créer, enfin de copier en fait un peu les modèles des productrices de contenu. Et donc de s'incarner. Mais je pense aussi que, par exemple, sur les chaînes de Bolloré, il y a aussi de plus en plus une part large consacrée aux éditorialistes et donc à leurs idées d'extrême droite.
On revient toujours à Bolloré, c'est terrible.
Ouais, toujours, c'est un truc de fou. En deux ans de retour aux sources, on en a beaucoup trop parlé. Une idée, Chou?
Je vais faire un petit pas de côté, mais je trouve ça cool parce que quand même, les réseaux sociaux, ça a permis à plein de médias indépendants d'émerger. Donc, on a pas mal de choix, plus qu'avant. Par contre, ce qu'il faut questionner, ce qui est embêtant quand même, c'est que leur patron, entre guillemets, c'est Meta, quoi. Et c'est peut-être ça le problème principal, parce qu'ils dépendent d'une plateforme qui fait le cow-boy, sans foi ni loi, etc. Je sais pas si j'ai d'autres choses intéressantes à dire là-dessus, quoi.
Non, mais ça répond aussi bien à la question.
Que aussi, c'est un modèle qui est gratuit, entre gros guillemets, enfin, dans tous les cas, pour lesquels on ne paye rien, et que ça entretient l'idée que maintenant, on n'a plus à payer pour de l'information, quoi. Voilà, ce serait ça.
Merci pour toutes ces questions et réponses. Et je vous propose maintenant d'écouter ACAB de Sarah Ebe, une artiste argentine qui dénonce les violences policières. C'était dans le titre. À tout à l'heure. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan. Et vous êtes de retour sur Prune dans l'émission Siamo Toutex, qui aborde les façons concrètes et joyeuses de lutter contre les fachos. Et maintenant qu'il est 13h12 aussi chez vous, je passe le micro à Enora, qui nous a préparé une chronique culturo-linguistique.
Oh, tu inventes des mots, ça tombe bien, on va parler de 9 langues. Oh. On parle des journalistes depuis tout à l'heure, mais vous savez qui est en PLS aussi en ce moment ? Les traductrices et les traducteurs. Et pour cause, elles sont confrontées à la traduction de prises de parole quotidiennes de Donald Trump. Son vocabulaire est extrêmement limité, nous dit Vincent Buck, interprète spécialisé dans la traduction live de discours. Sa langue est vulgaire et pleine d'erreurs de syntaxe, selon Bérangère Viennot, traductrice de presse et autrice du livre « La langue de Trump ». Ces déclarations font penser à celles d'Olivier Manoni, traducteur qui a passé des années la tête dans Mein Kampf pour restituer toute la médiocrité de sa prose bancale dans l'ouvrage collectif « Historiciser le mal ». Manoni qualifie le texte d'Hitler de « bourbeux, criblé de fautes et de répétitions », souvent illisible, doté d'une syntaxe hasardeuse et truffée de tournures obsessionnelles. Alors, il est légitime de se poser la question. Est-ce qu'entre Hitler et Trump, on a affaire à deux gros teubés arrivés au pouvoir par accident? Ou est-ce qu'il s'agit là d'un choix conscient de registre linguistique pauvre et flou, faisant partie de leur stratégie de communication? Lorsque l'on parle de langue appauvrie et simplifiée en politique, ça fait vite écho au concept de novlangue que tu évoquais en intro, Lilia. La novlangue, c'est donc la langue officielle d'Océanie, inventée par George Orwell dans son roman 1984. Elle se caractérise par une transformation de la langue, par la suppression de certains mots ou la modification de leur sens. L'objectif est d'empêcher de formuler certaines idées considérées comme subversives par le gouvernement. Le concept de novlangue est repris par Papy Umberto. Je me permets un peu cette familiarité, ça fait quand même 5 émissions qu'on parle de son bouquin. En effet, le 14e point de reconnaître le fascisme nous dit que le fascisme éternel parle la novlangue, je cite, « Tous les textes scolaires nazis ou fascistes se fondaient sur un lexique pauvre et une syntaxe élémentaire, afin de limiter les instruments de raisonnement complexes et critiques. Cela dit, nous devons être prêts à identifier d'autres formes de novlangue, même lorsqu'elles prennent l'aspect innocent d'un populaire talk show. » Fin de citation. On pourrait presque croire qu'Umberto Eco a prévu l'avènement de « Touche pas à mon poste ». Eco invite à rester alerte sur les dérives linguistiques et jargonneuses et pour rendre ce pan de la lutte contre le fascisme un peu plus ludique, je vous propose d'en faire un petit jeu pour s'entraîner à les repérer.
Yeah.
Oui.
Un jeu.
Alors, il y en a des faciles à débusquer, comme le fameux islamo-gauchisme, descendant direct du judéo-bolchévique, populaire dans l'entre-deux-guerres. On a le wokisme, qu'on ne présente plus, mais qu'on pourrait voir comme une sorte de grande valise contenant d'autres plus petites valises, telles que féminazi ou journalope. Ces mots fourre-tout qui convoquent un imaginaire peuplé d'adversaires bêtes et méchants sont un peu le niveau 1 de la novlangue. Le niveau 2 est un tout petit peu plus subtil, avec des formulations à l'air sérieuses telles que « lutter contre le séparatisme » ou les fameuses « valeurs de la République », mais ces formules excluent d'office tout débat. Bah oui, si tu veux pas lutter contre le séparatisme ou si tu ne veux pas protéger les valeurs de la République, c'est probablement que c'est toi le méchant. Ça permet d'éliminer toute réflexion sur la complexité d'un problème. Le niveau 3 demande d'être un peu plus attentif et attentive pour déceler la fusion des contraires dont sont spécialistes les gouvernements successifs Macron. On peut citer Édouard Philippe qui fait passer un 49-3 pour mettre fin à, je cite, « un épisode de non-débat parlementaire », alors que le 49-3 sert précisément à outrepasser tout débat. Dans la même veine, on peut citer Madame Buzyn qui nous dit vouloir supprimer des lits d'hôpitaux pour améliorer la qualité de soins.
Très fort. Oh,
wow. C'est
très très fort.
Et pour un exemple un peu plus corsé, Macron himself nous dit « Seule la résilience peut nous permettre de faire face aux crises à venir ». Par cette phrase, il nous enferme dans une sorte de déterminisme. Les crises sont à venir, pas besoin de résister, il faut juste s'adapter à leurs effets. En plus, il utilise le mot « résilience », c'est magnifique, on dirait une marque déposée par Cyril Dion, donc ça peut pas être mauvais. Pour le niveau 4, je vous propose d'y jouer en famille et demander à vos parents quel était le terme utilisé pour parler de charge sociale à leur époque. Bon, je vous donne la réponse. En fait, on parlait de salaire indirect. Avouez, ça n'a pas la même saveur. N'oublions pas que la droite n'a pas l'apanage des formulations creuses. On peut aussi jouer à balayer devant notre porte pour trouver les mots qu'on emploie un peu trop à toutes les sauces et qu'on vide de leur sens, comme déconstruction, systémique, bienveillance ou le lexique de start-upers qui infuse petit à petit dans nos assos. Je vous laisse approfondir ce petit jeu chez vous. Ce ne sont que quelques exemples des mécaniques de cette novlangue qui font tendre les discours vers l'absence de nuances et la polarisation des débats.
Merci Enora de nous avoir démontré qu'on se faisait manipuler par les mots depuis 1948, qu'Eco avait rêvé d'Hanouna et que même nos espaces militants peuvent être hypocrites.
Yes.
En réalité,
beaucoup de fun.
En réalité, c'est hyper pertinent de reposer les enjeux là où ils sont. L'électorat du FN, ce ne sont pas des pauvres gens qui ne sont pas capables d'aligner deux idées. Le manque de nuances et de réflexion fait partie de la stratégie politique fasciste. Mais à Siamo, pas question de s'embourber dans la déprime. On s'est d'ailleurs rendu compte le mois dernier qu'on avait une tradition, celle de terminer l'émission en questionnant les joies, le collectif et l'ancrage quotidien de nos luttes. Lilia, je te laisse prendre la main pour cette tradition vieille de 14 semaines.
Est-ce que je pourrais juste rebondir deux secondes sur ta chronique ? Merci, c'était super. Ça me fait penser que maintenant, vous savez, ça fait un moment, on peut plus écrire viol ou fascisme sur Instagram.
Oui, oui.
Bah, ça me fait vraiment écho à ça, en fait.
Ouais, c'est vrai, j'avais pas du tout
pensé. On est obligé de foutre des putains d'émoticônes parce qu'on peut, on nous c'est empêche vrai. De prononcer les vrais termes.
C'est vrai.
Merci.
Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie pour vous de lutter au quotidien ? Julia, qu'est-ce qui, toi, personnellement, fait que tu t'engages dans cette activité d'éducation auprès des jeunes adultes ?
Je pense que c'est ma passion pour la critique des médias que j'ai découvert, je pense, à la fin de mes études, en 2017-2018. J'ai commencé par Les Nouveaux Chiens de Garde de Serge Halimi, qui a été transcrit en documentaire, là, qui est super. Et ouais, je pense que c'est... désacraliser, en fait, les médias, parce que comme tout enfant qui a voulu être journaliste, je sacralisais à fond. Il n'y avait pas de critique à avoir. Et puis, j'avais bien le dogme de « il faut lire et le Figaro et l'Humanité et machin, et un peu de journalisme économique, etc. » Et quand je suis tombée sur Serge Halimi, entre autres, qui disait c'est du bullshit parce qu'on est en train de parler. Les premières fois que j'entendais les mots bourgeoisie intellectuelle, etc., néolibéralisme, etc., ça m'a complètement chamboulée. Et c'est un peu ça qui me passionne. Et c'est ça. Critiquer. J'adore critiquer, en fait.
En fait.
Et tu le fais super bien.
Et toi, Anne-Marie, qu'est-ce que t'apporte l'éducation aux médias ?
Alors, il faut savoir qu'avec Julia, on a un parcours assez similaire parce qu'on a fait les mêmes études, en tout cas le même master. Et je pense que c'était un peu inhérent à nos études de... disons que j'étais comme Julia, une ado passionnée des médias. J'ai été biberonnée au journal de 20h sur France 2 et à la matinale sur France Inter. Et en fait, c'était assez inhérent à notre master de parler de critique des médias déjà à l'époque, de ne pas idéaliser ce métier et d'essayer de tout de suite mettre de côté ce côté de cette idée de neutralité. Et donc, en fait, ça m'a intéressée aussi ensuite dans ma pratique journalistique, de ne pas mettre justement ce métier sur un piédestal. Et mon métier s'est aussi transformé quand j'ai commencé à faire de l'éducation aux médias parce que j'avais... En fait, j'adore voir chez les ados avec qui je fais de l'éducation aux médias une petite étoile s'allumer quand je leur tends un enregistreur, un micro, et que je leur dis « bah ouais, vous avez le droit de vous déambuler dans l'espace public avec un casque sur les oreilles et de poser toutes les questions que vous voulez poser. Vous avez le droit d'aborder les sujets dont vous avez envie. » C'est trop... chouette de voir ça chez eux, en fait. Cet enthousiasme-là, de pouvoir toucher à des trucs un peu techniques et tout, et de... Ils mettent une casquette de journaliste, et je trouve ça trop bien. Voilà.
Trop cool. Ça donne vraiment envie. Et du coup, au-delà des ateliers, comment vous faites, vous, pour aborder l'état actuel des médias et du journalisme avec vos potes ou en famille ?
Alors, en l'occurrence, moi, je pense que je suis entourée de beaucoup de journalistes. Et ou d'amis qui ont à peu près les mêmes idées que moi. Donc je ne sais pas si c'est des sujets qu'on aborde. Je pense qu'on est aussi un petit peu dans le déni actuel. Tout à l'heure, vous avez toutes dit comment vous informiez. Moi, je pense que je suis aussi dans une période où je m'éloigne de l'information, ce qui vraiment est à l'exact opposé de ce que je devrais faire en termes de, en tout cas avec mon métier. Mais il faut savoir se préserver aussi.
Et peut-être, tant qu'on est dans les tips, comment on peut faire, nous ou les auditoristes, pour nous informer mieux ? Comment on peut faire pour nous informer sans risquer un burn-out à cause du flot d'informations en continu ? Parce que moi, si je regarde toutes les newsletters, en fait, j'ai plus le temps d'écrire les émissions, quoi.
Déjà.
C'est clair, ça a été un questionnement pendant des années avec Anne-Marie et Dany, un autre copain journaliste animateur. Moi, longtemps, j'ai voulu faire la bonne élève en me faisant ma revue de presse quotidienne, mais en fait, ça te fout en l'air. Donc, je me suis un peu déculpabilisée de tout ça et je fais une boucle avec ce que vous disiez en intro de s'informer sur Insta. Moi, je m'informe que sur Insta, etc. Moi, je m'informe franchement 80% sur Insta, je pense. Après, pour mieux s'informer, le premier truc qui me vient, c'est d'aller voir les médias indépendants. Voilà, éventuellement de prendre un abonnement ou deux pour qui peut, mais je sais que c'est pas évident. Et peut-être de varier les temporalités, quoi. De voir du côté des hebdos, des publications mensuelles, etc., qui ne traitent pas sur le temps, sur le
chaud.
Ouais, qui ne traitent pas sur l'info à chaud. Puisque de toute façon, dans l'info à chaud, il n'y a pas de contextualisation, il n'y a pas d'analyse, c'est vraiment. Voilà.
C'est beaucoup d'émotions en fait, et donc en fait parfois c'est intéressant de prendre un peu de recul et de se dire bah dans un mois il se sera passé d'autres choses, peut-être même que sur le même sujet il y aura d'autres choses qui auront évolué, et ça peut être intéressant de lire dans un second temps avec en l'occurrence des articles plus longs, plus poussés.
Voilà. Et moi mon petit secret c'est que je lis des médias qui ont lu les médias pour moi. Et qu'il est critique pour moi. Ouh. Et du coup, je vais sur Acrimed ou Arrêt sur Image et je lis ce qu'ils ont fait. Et comme ça, je suis informée doublement. Et voilà.
Merci beaucoup à vous deux pour cette interview. Après tout ça, on y voit un peu plus clair sur la responsabilité des médias dans la propagation des idées d'extrême droite, mais aussi sur notre propre responsabilité à aiguiser notre esprit critique et questionner les infos qui nous parviennent et ce qu'elles forment. Un grand pouvoir, de grandes responsabilités, tout ça, tout ça. Mais on n'est pas tous des super-humains humaines et le combat contre Bolloré aurait tendance à nous déprimer plutôt qu'à nous exalter. On pourrait vous ressortir la théorie colibri du « chacun une fait sa part » et vous raconter les campagnes de boycott victorieuses. On pourrait aussi proposer de se recentrer et d'investir notre énergie dans des actions qui nous font du bien. Rejoindre le mouvement de lutte contre l'Empire Bolloré lancé par les soulèvements, écrire, produire, diffuser des contre-discours, s'auto-former en collectif sur les questions d'éduc média, soutenir financièrement ou algorithmiquement les médias indépendants. On aurait aussi aimé aborder avec vous la précarité grandissante des pigistes dans un monde journalistique régi par les intérêts capitalistes, la concentration des médias dans les mains de quelques hommes riches fascistes, on en a déjà beaucoup parlé, on refait coucou à Bolloré. On aurait aussi pu parler de la personnification de l'info, de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'écriture de l'information. On manque de temps, mais rassurez-vous, il existe deux saisons de Retour aux sources qui abordent toutes ces questions et vous pourrez les retrouver sur prune.net. D'ailleurs, Léo me fait signe depuis la régie. C'est faux, il ne me fait pas signe.
Maintenant,
c'est écrit dans mon script. Il me fait signe de faire de l'autopromo. Vous pouvez écouter tous les épisodes de Siamo Tout Texte sur les plateformes de streaming audio. Oui. On est sur Deezer.
Ouais.
On est aussi sur Spotify, mais vous ne sentez vraiment, vraiment pas obligé de donner vos thunes à un soutien de Trump. On est sur Apple Podcasts, qu'on n'aime pas beaucoup non plus. Bref, maintenant, plus d'excuses de « c'est pas pratique d'écouter sur le site ». Coucou maman. J'aurais donc fait coucou à Bolloré et à ma mère. Dans ses conclusions, la vie est une question d'équilibre. Merci à tous pour cette émission qui m'a personnellement fait beaucoup de bien. Merci à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers auditoristes, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve le mois prochain pour toujours plus de joie Antifa.
Bonne soirée, bonne journée.
Ciao.